Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ça y est, c'est parti pour deux heures d'actu avec vous. À mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, l'Ukraine qui interpelle directement Emmanuel Macron et les Français. Dans un quart d'heure, vous entendrez notre invité de 18h15. Igor Zovka, c'est le bras droit du président ukrainien Zelensky, son conseiller spécial. Et pour lui, c'est clair, l'Europe et les États-Unis manquent de courage.
Sur le terrain à Kiev, sous les bombes, le reportage de notre envoyé spécial à découvrir dans un instant. Marioupol, ville martyre, assiégée, privée d'eau et d'électricité. Témoignage de RTL de l'adjoint au maire. Il parle de catastrophe humanitaire. Plus de 2500 civils ont été tués. À suivre également dans le journal, une première éclaircie pour votre porte-monnaie à la station essence. Et puis les salariés qui redécouvrent la vie sans masque, avec toujours un peu de prudence.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL s'interroge. Que risquent les manifestants anti-guerre en Russie? Quasiment 1000 interpellations hier. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu. Les dessous des sifflets au PSG. Lionel Messi conspué par son propre public hier. 18h40, on défait le monde. Les 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signé et l'équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir, le scénario du pire. On a voulu savoir si la France était prête en cas de catastrophe nucléaire. Fuite radioactive ou pire, missile atomique. Vous découvrirez ce qui est prévu.
C'est réjouissant.
Ou pas. Bah ouais, c'est des visions des prévoyants, on défait le monde. Au menu également, les grosses, voire trop grosses ficelles de communication d'Éric Zemmour. Et vous entendrez que l'hymne de la Légion étrangère française résonne en Ukraine.
19h15, on va débattre, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, puis des points météo tout au long de l'émission avec Louis Baudin. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
La tendance?
Eh bien, les pluies qu'on a eues aujourd'hui sur les régions du sud vont remonter vers le nord. Donc demain matin, des pluies au nord de la Loire, mais elles devraient continuer leur progression vers le nord. Donc en cours d'après-midi, toujours beaucoup de nuages dans le nord, mais le retour du soleil dans le sud.
Très bien, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier.
Alexandre de Saint-Aignan.
Et au moins deux morts aujourd'hui à Kiev, la capitale ukrainienne, toujours quasiment cernée et toujours sous les bombes.
Alors que l'armée russe est aux portes de la ville, effectivement, on retrouve sur place notre envoyé spécial, Émilie Beaujard. Un immeuble résidentiel de Kiev a été touché par des fragments de missiles et une personne a été tuée.
Oui, la frappe a touché le bas du bâtiment de 10 étages, soufflant plusieurs appartements autour. Cette femme regarde désespérée là où elle habitait, au quatrième étage.
Dire que j'ai vécu toutes ces années ici. Je n'ai plus rien.
Blessée légèrement aux mains, cette femme s'inquiète de savoir où elle pourra dormir ce soir. À côté de l'immeuble, un de ses voisins s'affaire pour réparer quelques dégâts.
Tout a explosé à 5h du matin. Regardez la vitre, elle est explosée. Le souffle a aussi détruit ma voiture et a ouvert toutes les portes des garages autour. Maintenant, on cherche de quoi réparer et protéger les fenêtres.
Des familles choquées quittent le quartier. Un député ukrainien est venu les soutenir.
Comme vous pouvez le voir, c'est une zone d'habitation civile ici. Là, il y a un centre sportif, il n'y a pas de cible militaire, donc c'est juste pour terroriser la population et tuer des civils. C'est ça la réalité.
Des rescapés tentent encore de récupérer quelques affaires comme leur papier d'identité et leur téléphone portable. Il y a plus d'une centaine d'appartements dans cet immeuble. Heureusement, la plupart des habitants avaient déjà fui la ville.
Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale de RTL à Kiev. L'armée russe a également bombardé l'usine aéronautique Antonov aujourd'hui à Kiev, faisant un mort. Et puis à l'instant, on apprend qu'une frappe a fait 9 morts. Une tour de télévision a été ciblée à l'ouest du pays.
Alors, entre Kiev et Moscou, les pourparlers ont été interrompus aujourd'hui, mais les négociations vont continuer.
Des négociations qui doivent reprendre demain après une pause technique. Même si Russes et Ukrainiens ont salué des avancées ce week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky explique que la discussion est toujours très difficile.
Nous devons nous accrocher, nous devons nous battre pour gagner. Pour parvenir à la paix que les Ukrainiens méritent, une paix juste. Avec des garanties de paix pour notre État, pour notre peuple, et de les mettre sur le papier dans ces négociations qui sont très difficiles.
Volodymyr Zelensky qui va s'exprimer après-demain devant l'ensemble du Congrès américain par vidéoconférence. Il avait déjà pris la parole, le président ukrainien, devant le Parlement britannique ces derniers jours.
Selon les dernières estimations de l'ONU, au moins 2,8 millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine depuis le 24 février, premier jour de l'invasion russe.
À Marioupol, ville martyre du sud-est de l'Ukraine, ville assiégée, des civils ont enfin réussi à prendre la fuite à bord de 160 seulement, 160 voitures.
Des voitures qui ont emprunté le couloir humanitaire. Ça fait des jours que la ville est assiégée, bombardée, privée d'eau potable, de gaz, d'électricité. C'est dans cette ville qu'une maternité avait été bombardée par les Russes la semaine dernière. Situation dramatique sur place qui s'aggrave de jour en jour. Nerissa Imani a réussi à joindre pour RTL l'adjoint au maire de Mariupol.
La situation empire jour après jour. Nous n'avons pas d'eau, pas de nourriture. Nos quatre hôpitaux sont totalement détruits. Si les attaques russes continuent à être aussi agressives, je suis sûr que nous n'aurons plus de bâtiments. Ils n'attaquent pas des bases militaires, mais des habitations. L'armée russe ne veut pas prendre le contrôle de la ville, mais détruire complètement notre ville et tuer nos citoyens.
Et combien d'habitants ont été tués dans ces attaques ?
Nos chiffres officiels disent 2500 personnes tuées. Mais selon moi, le vrai chiffre est plus élevé.
Et donc vous avez commencé l'évacuation des civils ?
Oui, c'est cela. Nous voulons faire évacuer tout le monde, environ 350 000 personnes. On utilise le couloir humanitaire et à ce jour, plus de 160 voitures ont quitté la ville, mais ce sont des voitures de particuliers. Certains quartiers de Mariupol qui sont attaqués se trouvent près du couloir humanitaire. Nous ne comptons plus les semaines, mais les heures. C'est une situation terrible, une catastrophe humanitaire. Nous sommes au cœur de la catastrophe.
Voilà l'adjoint au maire de Mariupol, document RTL signé Nerissa Emani. En France, deux militants anti-Poutine en garde à vue après être rentrés par effraction ce week-end dans la villa de l'ancien gendre du président russe situé à Biarritz. Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, les deux militants se filment dans le jardin, sur la terrasse, mais aussi à l'intérieur de l'immense demeure construite sous Napoléon III.
Allez, petite pause dans ce journal et dans un instant, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, les prix à la pompe ont commencé à baisser. À tout de suite RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h08, vous écoutez RTL, vous nous écoutez peut-être en voiture d'ailleurs, et c'était la bonne nouvelle de la journée, le prix des carburants a baissé après les records de ces derniers jours.
Bon alors ça reste encore très cher, mais il y a du mieux, de quoi laisser souffler les automobilistes en attendant la ristourne carburant promise par le gouvernement pour le 1er avril, les fameux 15 centimes de baisse. Une baisse pour l'instant annoncée des prix du pétrole qui commence à être répercutée à la pompe, dans certaines stations en tout cas, et ça n'est pas passé inaperçu auprès des automobilistes à Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse, Patrick Hisson.
Oui, et beaucoup s'attendaient à ce prix plus bas ce matin, moins 20 centimes en seulement 24 heures dans la station de ce supermarché.
Je savais que ça allait baisser. Il était à 2,10 euros et ce matin, c'est à 1,90 euros, c'est ça ?
Ben oui, j'ai vu le prix, c'est pour ça que je suis là. Donc on en profite.
Et pour certains, l'écart constaté en une semaine est même plus élevé.
Leclerc avait annoncé 35 centimes de moins. Et puis en passant, c'était le même prix ici, alors je suis resté ici. Mais bon, c'est de la spéculation, c'est ça qui est dommage, quoi.
La différence est de combien à peu près ?
Oh ben là, le gasoil, il était à 2,27, je crois, la dernière fois. Donc là, il a un 905 et il a bien baissé.
1,90, hein.
Oui, 1,90. Ouais.
Mais les automobilistes sont très prudents face à des prix toujours très hauts.
C'est le début d'une bonne nouvelle, disons, sans savoir si ça va durer.
1,90€, ça reste quelque chose de cher, ouais.
Ça reste élevé, ouais. Surtout que moi, bon, je suis dans la livraison, mais ça se part vite. Mais ouais, il va falloir qu'ils fassent quelque chose.
Et est-ce qu'ils vont quand même conserver la mesure des 15 centimes par litre ? Si ça baisse, je sais pas.
Les moins 15 centimes annoncés par le gouvernement à partir du 1er avril pour lutter contre un marché du pétrole qui reste évidemment très instable.
Patrick, ils sont pour RTL.
Pour la première fois depuis quasiment 2 ans aujourd'hui, vous avez pu apercevoir le sourire de vos collègues.
Le port du masque n'est désormais plus obligatoire, quasiment partout, que ce soit dans les commerces, les écoles et dans toutes les entreprises. Un retour à la normale au faux air de libération, même si certains prudents restent masqués, comme vous l'avez constaté dans une PME à côté de Verdun, Dimitri Ramelot.
Oui, dans cette structure de 33 salariés spécialisés dans la communication sur les murs et les portes des bâtiments, des petites affiches. Le masque, c'est fini. Revivons ensemble, comme avant.
Ah ben, on est complètement libérés, délivrés.
Le directeur Raphaël Elmarez.
Là, c'est vraiment du bonheur. Enfin, on retrouve la liberté, on retrouve nos habitudes, on retrouve les clients avec le sourire. Non, ça y est, c'est reparti, on revit. Bien sûr, j'ai ces choix à mes salariés. Plus détendus, on discute avec les gens, ils sont plus dispo, on dirait.
Et pourtant, encore quelques récalcitrants toujours masqués dans l'open space, comme Jérémy qui a adapte son rythme de travail.
C'est angoissant et puis c'est hors de question. Je trouve ça beaucoup trop précoce. J'ai choisi les jours de présence sur mon site au bureau en fonction de ça, c'est-à-dire que moins il y a de monde, plus je préfère être au bureau. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que dès qu'il commence à avoir beaucoup de monde, en général c'est les mardis, les jeudis, je préfère être à la maison. Je me sens protégé.
Mes salariés et patrons surveillent inquiets la hausse des courbes de contamination et redoutent un retour en masque obligatoire après l'élection présidentielle.
Dimitri Ramelot pour RTL.
Nous sommes à 27 jours, tiens, justement, du premier tour de l'élection présidentielle. 8 candidats invités ce soir sur le plateau de TF1. Mais alors attention, on vous prévient, ce sera tout sauf un débat.
Emmanuel Macron a accepté l'invitation, mais le président candidat refuse toujours la confrontation avec ses adversaires. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir.
Alors c'est la première fois depuis le début de la campagne qu'autant de candidats seront invités au même moment dans une même émission. Mais à la demande d'Emmanuel Macron, tout a été fait pour qu'ils ne se croisent pas.
Oui, exactement. Des loges séparées, un parcours dédié pour chaque candidat. Même leurs horaires d'arrivée au studio ont été minutés pour qu'aucun des prétendants ne se rencontre. Cela faisait partie des conditions imposées par l'équipe d'Emmanuel Macron pour participer à l'émission. Tout comme l'absence d'une photo de famille, alors que Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon en avaient fait la demande. Vous ne verrez donc pas Éric Zemmour, Marine Le Pen ou encore Yannick Jadot au même niveau que le président. Concernant le déroulé de l'émission, là encore, les candidats ne se croiseront même pas. Il y aura 3 parties. D'abord, 1 minute pour chaque candidat en début d'émission avec une même question sur la guerre en Ukraine, suivie d'un échange avec les journalistes et enfin une conclusion de 2 minutes chacun.
Ce soir, Thomas, tous les candidats ne sont pas invités ici.
Non, vous ne verrez ni Jean Lassalle, ni Nathalie Arthaud, ni Philippe Poutou, ni Nicolas Dupont-Aignan. Tous les 4 n'ont pas été invités. La faute à la période d'équité des temps de parole. C'est aussi la raison pour laquelle vous entendrez ce soir Anne Hidalgo un peu plus longtemps que Fabien Roussel, alors qu'ils sont à coude dans les sondages. Tout de même un peu moins de temps qu'Emmanuel Macron, qui lui est au-dessus. Mais notez que pour compenser l'absence de ces 4 plus petits candidats, TF1 leur a promis des invitations au journal de 20h, en plateau ou dans un reportage.
Les explications de Thomas Després du service politique de RTL. Et puis autre rendez-vous politique, tiens à noter, c'est jeudi prochain qu'Emmanuel Macron va présenter son projet. Ce sera lors d'une conférence de presse.
Merci Alexandre, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Louis, on s'attend à quoi ?
Eh ben, ça se gâte dans le nord et ça s'améliore dans le sud. Bon, avec souvent quand même quelques petites nuances. C'est vrai, bon, aujourd'hui c'est un peu l'inverse quand même. Certes, mais c'est vrai que la pluie qui était dans le sud va remonter cette nuit vers le nord. On la retrouvera demain matin au nord de la Loire, dans le nord-est, avec donc des nuages, de la pluie. En cours d'après-midi, cette même limite remontera encore un peu plus loin vers le nord, ce qui veut dire qu'on retrouvera quelques éclaircies, toujours dans la moitié nord avec de moins en moins d'averses. Puis pendant ce temps-là, dans la moitié sud, retour d'un temps sec et ensoleillé, sauf dans le Languedoc où on aura encore un risque d'averses. Puis attention au vent qui va continuer à souffler fort près de la Méditerranée ou encore du côté de Toulouse avec des rafales atteignant ou dépassant les 100 km/h. C'est le cas en ce moment, donc ça sera encore vrai pour la journée de demain. Côté température, la douceur va persister. Le matin, 4 à 12 degrés, pas moins, et l'après-midi, 15 à 20 degrés au nord.
Ça monte. Ça monte. Merci Louis.
La brigade RTL soir.
Et avec la brigade RTL, nous nous interrogeons ce soir. Que risquent les manifestants anti-guerre en Russie ? Parce que le chiffre d'hier est frappant. 919 arrestations dans 38 villes, d'après une ONG d'opposition. Est-ce qu'ils finissent en prison, ces opposants, et pour longtemps ? Parce qu'on sait que c'est la menace brandie par le pouvoir. Est-ce que la répression est féroce ? On va poser 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Le risque, c'est la détention pour de longues années ?
Alors, pas encore. La majorité des manifestants interpellés restent poursuivis pour des infractions classiques, entre guillemets, rassemblement non autorisé ou outrage aux policiers, par exemple. Ils passent entre 10 et 30 heures au commissariat avant d'être convoqués devant un tribunal. Les peines vont alors d'une amende à une détention de 30 jours maximum. La nouvelle loi qui menace de 15 ans de prison toute critique de l'armée russe est donc rarement invoquée. Mais, car il y a un gros mais, les activistes ont été prévenus qu'à la troisième interpellation, les poursuites deviendront considérons criminels. Et d'après l'ONG russe OVD Info, une trentaine de dossiers ont déjà été ouverts ces derniers jours, parfois même pour terrorisme. Les manifestants risquent alors plusieurs années de prison, synonyme encore aujourd'hui de camp pénitentiaire en Sibérie. Ils attendent leur procès avec inquiétude.
Alors, pas de longue peine pour l'instant de manière générale. En revanche, les pratiques policières sont extrêmement dures.
Oui, des interrogatoires accompagnés de coups ont été documentés dans des commissariats de Moscou. Les téléphones des manifestants sont fouillés de force, même si c'est illégal. Les avocats sont interdits d'assister leurs clients. Les perquisitions chez les organisateurs se multiplient et à Oufa, dans le sud de la Russie, une femme a été arrêtée pour un message anti-guerre posté sur un groupe de discussion sur Internet. Oui, les menaces directes ou indirectes se multiplient.
Et cette stratégie de la peur, elle semble fonctionner.
Absolument. Une opposante de Saint-Pétersbourg m'a confié tout à l'heure qu'il y avait plus de policiers que de manifestants hier et que le maigre cortège prévu n'avait même pas réussi à se former. La voix de la contestation s'étiole en Russie à mesure que le régime se durcit.
La brigade RTL avec Thomas Proutot ce soir. Merci Thomas. Courte pause et ensuite nous allons rejoindre notre invité. C'est le conseiller spécial du président ukrainien Zelensky. Igor Zovka est avec nous depuis Kiev sur RTL et vous allez l'entendre, il interpelle très directement Emmanuel Macron. Il nous interpelle aussi, nous Français. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Et RTL Soir, à vos côtés, RTL Soir, une nouvelle fois au plus près du terrain après quasiment 20 jours de guerre en Ukraine. Notre invité ce soir, c'est l'un des bras droits du président ukrainien Zelensky, son conseiller spécial. Bonsoir Igor Zovka.
Good evening.
Vous conseillez Volodymyr Zelensky sur les questions de diplomatie. Depuis l'invasion, votre chef d'État réclame en vain, encore aujourd'hui, une fermeture du ciel ukrainien, des avions de chasse. On a la sensation que les Européens, l'OTAN, les Américains ne sont pas prêts à prendre de telles mesures. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir aux leaders occidentaux ?
Ce que je veux dire au président Macron, mais aussi au chancelier Scholz et aux autres dirigeants européens, c'est soyez braves, soyez forts, soyez courageux comme le président Zelensky. Si vous ne voulez pas que la guerre se propage après l'Ukraine dans vos pays, s'il vous plaît, anticipez, pensez en amont. Agissez de manière préventive. Nous avons terriblement besoin d'une fermeture du ciel ukrainien. Si ce n'est pas possible, et ce que nous comprenons de la part des leaders occidentaux, c'est qu'ils manquent de courage pour une telle décision. Donc, si ça, ce n'est pas possible, alors aidez-nous autrement. L'Ukraine a désespérément besoin d'une défense aérienne. Désespérément besoin d'avions de chasse. Nous avons donc maintenant besoin d'une volonté politique des leaders européens et de l'OTAN pour prendre ces décisions.
Igor Zovka, si les Européens, les Américains hésitent, refusent, c'est parce qu'ils craignent une troisième guerre mondiale. Une guerre généralisé. Vous comprenez cette crainte ?
Mais la guerre a déjà lieu en Europe. L'Ukraine fait partie de l'Europe. Et l'Ukraine se battra jusqu'au bout. Mais vous, en France, dans cette tranquille France, vous devez comprendre que vous ne pourrez pas vous en laver les mains pour juste regarder confortablement ce qui se passe en Ukraine. Quand mon président a parlé de sanctions préventives avant la guerre, personne n'y a fait attention. Ce n'est que maintenant que l'Europe comprend et prend des sanctions. D'ailleurs, il y a un autre moyen de freiner l'invasion. S'il vous plaît, prenez des sanctions sérieuses. On a parlé du SWIFT. Déconnectons toutes les banques majeures, pas simplement cette banque secondaire, et décidez d'un blocus sur le gaz et le pétrole russe. L'Europe et l'OTAN peuvent encore en faire plus.
Il y a eu aujourd'hui un quatrième round de négociations avec les Russes. Vous discuterez de nouveau demain. Est-ce qu'il y a encore, là, aujourd'hui, vraiment un chemin pour la diplomatie ?
C'est possible. Dès le premier jour de l'invasion, mon président l'a dit, nous sommes prêts pour des solutions diplomatiques. Mais vous devez comprendre que la décision finale ne peut être prise que par une seule personne en Russie, c'est Poutine. C'est pourquoi tous les jours, mon président demande à M. Poutine de venir s'asseoir à la table des négociations. Il n'y aura pas de résultat tant qu'il ne viendra pas s'y asseoir.
Nous avons eu hier des images du président Zelensky dans un hôpital de Kiev. Il est donc encore dans la capitale, vous aussi Igor Zovka, tout son staff. Il n'est pas question de quitter Kiev.
Le président Zelensky
est à Kiev. Nous ne partirons pas. Nous ne quitterons pas l'Ukraine. Parce que c'est ça que les Russes veulent. C'est créer un sentiment de panique dans la population. Et ça n'arrivera jamais. Les Ukrainiens regardent tous les jours les vidéos et les discours du président Zelensky. Et il est devenu un exemple, pas seulement d'ailleurs pour les Ukrainiens, mais aussi en France ou en Allemagne. C'est un vrai leader mondial.
Vous avez l'impression, Igor Zovka, que les Russes visent désormais volontairement, clairement des cibles civiles. C'est vrai que le nombre de victimes de bombardements ne cesse d'augmenter.
Absolument. Au lieu de bombarder des objectifs militaires, comme ils l'assurent, eh bien chaque jour, chaque nuit, chaque heure, ils touchent des sites civils. Aujourd'hui, ils ont visé à Kiev, à Mykolaïv, à Kharkiv. Mariupol est presque totalement encerclée. Des plus petites villes sont pratiquement rayées de la carte.
Vous parlez de Mariupol, ville coupée du monde, hein, sans eau, sans nourriture, sans électricité. 160 voitures, enfin, ont pu sortir de cet enfer aujourd'hui. C'est une ville martyre, Igor Zovka, c'est la nouvelle Alep.
Absolument. Les sites civils sont bombardés constamment. Il y a quelques jours, ils ont bombardé la maternité. Deux mamans ont été tuées. Et un bébé aussi a perdu la vie. Mais quel salaud, quelle bête faut-il être pour bombarder une maternité? Pour la deuxième semaine, nous avons essayé d'organiser un corridor humanitaire. Mais ils ne laissent même pas les convois passer et arriver en ville. Hier, il a été arrêté dans une ville à proximité et n'a pas pu repartir. Parce qu'il bombardait Mariupol, plus de 1600 personnes y ont déjà été tuées. Mais il reste 400 000 habitants dans la ville. Le président Macron devrait le rappeler chaque jour à M. Poutine et lui dire d'arrêter ce massacre sanglant.
Les renseignements américains, Igor Zovka, indiquent que la Russie a demandé de l'aide à la Chine. On sait que la Russie appelle aussi les Syriens à rejoindre son armée. Est-ce que ces potentielles nouvelles menaces vous préoccupent ?
Ils essaient aussi de faire entrer le Bélarus dans cette guerre. Ce ne sont clairement pas de bonnes nouvelles, mais c'est un signal clair. Ils n'ont pas réussi à faire tomber l'Ukraine en 3-4 jours. Maintenant, ils sont bloqués. Et ils essaient désespérément d'obtenir le soutien d'autres pays. Espérons que ces pays ne les aident pas.
Un mot du président tchétchène, Ramzan Kadyrov. Sur les réseaux sociaux, il indique qu'il se trouve en Ukraine, au front. Est-ce que cela vous inquiète?
Non, nous ne sommes pas inquiets. Nous combattrons tout soldat, qu'il soit russe, tchétchène ou d'ailleurs.
Merci Igor Zovka, conseiller spécial du président ukrainien Zelensky, d'avoir été ce soir notre invité depuis Kiev sur RTL. Merci.
Merci.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
Et RTL Soir revient dans un instant. Il y aura tout d'abord vos dessous de l'actu, tout autre chose, les dessous des sifflets qui interpellent Lionel Messi, conspué hier par les supporters du PSG. Ça fait polémique. Et puis laissez-vous tenter dernière, on va vous présenter le programme télé de votre soirée. A tout de suite, vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
18h30.
RTL Soir avec Julien Sellier.
RTL Soir continue. Si vous nous rejoignez à l'instant, on vous rappelle les grands titres de l'actualité. Alexandre de Saint-Aignan, c'est à vous.
En Ukraine, au moins 9 morts après une frappe de l'armée russe. 2 missiles ont touché une tour de télévision dans l'ouest du pays, près de la ville de Rivne. Plus tôt dans la journée, des bombardements ont fait 2 morts à Kiev, la capitale. Côté russe, Moscou accuse l'armée ukrainienne d'avoir lancé un missile contre la ville pro-russe de Donetsk, faisant 20 morts. Une pause dans des pourparlers entre Kiev et Moscou. Discussion qualifiée de difficile par le président ukrainien Zelensky. Les négociations doivent reprendre demain. C'est jeudi prochain qu'Emmanuel Macron a prévu de dévoiler son programme lors d'une conférence de presse à moins d'un mois du premier tour. Une visite de Gérald Darmanin en Corse pour tenter d'apaiser les esprits. Le ministre de l'Intérieur y sera mercredi et jeudi prochain, annonce faite au lendemain d'une manifestation de soutien à Ivan Colonna qui a viré à l'émeute.
Merci Alexandre, bonne soirée. Le temps pour demain, Louis, dites-nous tout.
C'est le retour des nuages et de la pluie au nord de la Loire et dans le nord-est. Ce sera juste pour demain, mais c'est vrai qu'on aura des nuages et de la pluie.
pluie qui devrait s'atténuer quand même au cours d'après-midi. Dans le sud de cette même limite, donc au sud de la Loire, on retrouvera beaucoup de soleil, sauf dans le Languedoc, on aura encore quelques averses. Puis attention au vent d'autan qui, comme ce soir, soufflera encore très fort sur la région toulousaine, puisqu'on atteindra les 100 km/h au moins. Les températures, en revanche, ça continue à grimper. Hein. Demain matin, on sera très loin des gelées en plaine, et l'après-midi, 15 à 20 degrés au nord comme au sud.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous des sifflets envers Lionel Messi. L'élimination ubuesque en Ligue des Champions n'est pas digérée, visiblement. Hier au Parc des Princes face à Bordeaux, les supporters ont copieusement sifflé le Ballon d'Or. Écoutez.
Lyon, Lyon.
Elle fait la une de la presse sportive en France, en Espagne, en Argentine, évidemment, un peu partout dans le monde. L'attitude du public fait jaser, choque même parfois. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Comment les supporters justifient ces sifflets?
Alors déjà, ils n'ont pas sifflé que Messi. Hein. Ils ont d'abord sifflé Neymar, le joueur, qui ne fait plus un dribble correct. Et puis l'homme, surtout, qui passe ses nuits à la Fashion Week, sans oublier le chèque à la fin du mois. Messi, c'est différent. C'est politique. Siffler Messi, c'est créer une onde de choc. Regardez, on a le meilleur joueur de tous les temps. Et le résultat est le même, parce qu'il est là pour de mauvaises raisons. C'est un mariage forcé qui abîme la légende du joueur et entrave la progression du club. On ne veut plus de Messi. On rejette la politique du toujours plus. On somme le Qatar de revoir sa copie.
Vous parlez de meilleur joueur de tous les temps, mais... on va pas se mentir, Philippe, le Messi sifflé hier, ce n'est plus le meilleur joueur du monde.
Non, ça c'est indéniable. Deux buts en Ligue 1. Deux petits buts depuis le début de saison, quand Cristiano Ronaldo en met trois en un match ce week-end en Angleterre. La vérité, c'est que Barcelone ne jouait plus que pour et par Messi depuis trois ans, ce qui entretenait ses statistiques personnelles mais a mené le club catalan à la cave. Messi n'a que 34 ans mais 17 ans de carrière au plus haut niveau. En fait, la lumière s'est peut-être éteinte d'un coup au pire moment pour le PSG.
Comment le groupe vit à la fois ses sifflets hier mais plus largement cette semaine de galère, de déception?
Bah, l'entraîneur, on le voit, il est groggy. Il est condamné à quitter le club cet été, mais il doit garder le navire à peu près à flot. Neymar, lui, on le voit, il se réfugie dans sa famille, sur les réseaux sociaux. On le voit donner le change avec son père, avec son fils. En gros, il n'en a pas grand-chose à faire. Messi, c'est l'inconnu. La presse catalane le rappelle déjà, mais le Barça, on le sait bien, n'en veut plus. Et puis, il y a Kylian Mbappé, buteur encore hier, irréprochable sur le terrain. En dehors aussi, on l'a vu soutenir le PSG Handball dans la salle de Coubertin, deux heures après le match hier. Alors peut-être un peu too much, hein, diront certains supporters.
La com est bien huilée quand même.
Est-ce qu'il se protège au maximum avant son départ, ou est-ce qu'il envoie au contraire un message comme quoi il veut devenir le porte-drapeau du club? Une seule chose est certaine, dans la débâcle comme dans le succès, les trajectoires restent encore et toujours individuelles.
Les dessous des sifflets du Parc des Princes ce soir avec Philippe Sanfourche, l'une des voix du foot sur RTL. Merci Philippe.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, laissez-vous tenter, dernière maintenant. Comme tous les soirs, la bande de LVT vous aiguille, vous donne de bons conseils, culture, télé pour occuper les soirées. On parle télé justement ce soir avec Isabelle Morilli-Bosque qui est avec nous. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir tout le monde.
Alors, on en a déjà parlé dans cette émission. Il y a ce soir sur TF1, La France face à la guerre, cette émission avec les huit principaux candidats à l'élection à la présidentielle. On va parler d'une autre guerre sur France 2 avec cette série documentaire. C'était la guerre d'Algérie.
Oui, alors c'est un vrai pari, parce que deux guerres, Ukraine-Algérie, sur deux grandes chaînes, un même soir, franchement, ça fait beaucoup. Et moi, j'avais des réserves, d'autant plus que la guerre d'Algérie est souvent traitée de façon très partisane. Or, cette série de Georges-Marc Benamou en 5 volets, 3 ce soir, 2 demain, dont le récitant est Benoît Magimel, est globalement une très bonne surprise qui montre bien les origines du conflit, plus les raisons de la radicalisation de part et d'autre. Là, dans l'extrait que je vous ai choisi, qui est un extrait, pas le plus désespérant, nous voilà en 1956, on est en guerre depuis 2 ans dans l'indifférence française quasi générale. Arrivent alors en Algérie 1 million de jeunes appelés de 20 ans qui très souvent ne sont jamais sortis ni de leur village, bien ni sûr. De leur ville, ni de leur campagne. Ils sont là au micro d'un journaliste qui me semble être Georges Decaune.
Vous vous êtes appelé ? Alors allez-y, dites bonjour à vos amis, à ceux que vous connaissez.
Alors chers parents, chers fiancés, je vous envoie à tous mes meilleurs baisers.
J'embrasse toute ma famille, je dis bonjour à tous mes amis de Gignac. Vous pouvez voir que je me porte très bien.
Je dois dire bonjour à mon père, à ma mère, ainsi qu'à ma fiancée.
Quelles sont vos impressions en Algérie? Ça va?
Ça va.
C'est la vie en plein air. Est-ce que vous aviez fait du scoutisme quand vous étiez jeune?
Oui, j'en ai fait.
Alors ça vous rappelle un peu le scoutisme,
Scoutisme, oui.
De votre jeunesse?
Oui, oui.
Et oui, au tout début, il croit être dans un camp de vacances. Mmh. Tout va basculer le 18 mai 1956 avec le massacre par le FLN d'une colonie de 21 jeunes Français, d'où une répression absolument terrible qu'on voit à l'image. Puis l'escalade. Chaque camp est le bourreau et le martyr de l'autre. C'est la guerre d'Algérie à hauteur d'homme. Franchement, c'est très bien fait. Le montage est très fluide. La suite demain. Et alors, tout de même, histoire de finir sur une note un peu plus gaie, j'ai un tout petit scoop. Vous le savez, la mission de Philippe Etchebest d'Un cauchemar en cuisine sur M6 est d'aider des restaurateurs en préfaillite, proposant trop souvent des plats congelés ou pas faits maison. Or, la surprise, le problème n'est pas là, car la nourriture, comme la serveuse, sont délicieuses.
Ça le fait, hein. C'est bon. Ça fait du bien. C'est un bon plat. J'adore.
Tout va bien, chef?
C'était très bon.
Ça vous a régalé.
Dire au chef qu'il était bon, son saucisson à brioche.
Parfait, chef.
Vous avez un joli sourire.
Ah, merci.
Cathy, hein,
oui.
Vous êtes...
C'est gentil, merci.
Ça fait du bien.
C'est ça.
Hein,
c'est ma nature.
Ah ben, c'est super, je ne changeais rien.
Et alors, Philippe?
Okay. Il a l'air heureux, en tout cas.
C'est sur M6. Ah oui, tout le monde a été sur
moi
la première.
M6, France 2, TF1, vous avez le choix ce soir. Merci pour vos conseils, chère Isabelle.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, 18h37 minutes, petite pause et ensuite on continue dans RTL Soir. On va défaire le monde pendant 20 minutes avec Cyprien Signy, Laurent Tessier, Céline Landreau. 20 minutes d'actu autrement. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors, une question pas du tout effrayante hein, ce
non.
soir. Au fait, en cas d'attaque nucléaire, est-ce que la France est prête? Eh bien la réponse, c'est juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.